C'est qu'en grande escale. C'est qu'en grande escale 2022. C'est sur Radar.
Vous êtes toujours sur Radar, il est pas loin de 15h et comme promis, on avait dit qu'on continuerait avec des interviews de Sea Cleaner entre autres, alors que l'Iris fait son arrivée au port en fanfare. On l'entend de loin et ça dégaze, donc ça envoie du lourd. On reçoit Gwenaël, c'est bien ça, je me suis pas trompé?
Parfait,
c'est, bah, c'est ça. Gwenaël donc, qui fait partie de Sea Cleaner. On vous rappelle évidemment qu'on est en plein cœur de Fécamp Grande Escale, que c'est qu'on est samedi et qu'il reste encore demain pour venir visiter un petit peu.
Oui, il fait super beau là,
l'ensemble des stands. Voilà, venez nous rejoindre. Franchement,
c'est de toute taille.
Vous ratez un truc.
Mais oui.
Qu'est-ce que vous faites encore à nous écouter? En fait, voilà. Non, on va s'intéresser quand même à notre invité qui avait bien fait, enfin, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre dans notre caravane studio mobile. Gwenaël qui s'occupe de communiquer, on va dire aujourd'hui, sur l'association Sea Cleaners.
Exactement, donc les nettoyeurs de la mer.
Les nettoyeurs de la mer. Pourquoi un anglicisme? C'est pas
parce qu'on a on est des visées internationales, tout simplement.
Voilà.
Et
ouais.
On est le seul programme de ce type dans le monde.
D'accord.
Et on est basé à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan.
Super. Et donc vous venez nous rendre une petite visite parce que des événements sont vecteurs de sensibilisation.
C'est exactement ça. Et aussi on a un partenariat de 3 ans avec le BLM. Et donc sur toutes les escales du BLM, on est avec lui. Alors normalement on fait de la sensibilisation auprès des jeunes qui sortent des visites du BLM, puisque on a un pôle bénévolat un pôle sensibilisation qui crée des outils pédagogiques pour sensibiliser les jeunes à la problème des pollutions plastiques. Donc on est là parfois uniquement pour avoir un stand devant le BLM, et puis ce coup-ci on a un grand stand avec une boutique pour un peu soutenir l'association et puis surtout parler du programme et sensibiliser les gens.
Alors justement, quel est-il ce programme? On parle de plastique majoritairement, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça, si?
Non, il n'y a pas que ça, mais c'est la grande majorité des déchets dans les océans, de toute façon. Et c'est la grande majorité du problème, parce que le métal, quand il se décompose, ça fait de l'oxyde de fer, c'est pas très grave. Le verre se décompose pas, mais au moins, quand il y a une bouteille au fond de l'eau, ça peut faire un abri. Le problème du verre, c'est quand il est cassé, où là, on peut blesser des animaux, on peut se blesser soi-même, on comprend très bien ça. Le vrai problème, c'est le plastique, parce que déjà, le plastique, en se décomposant, il crée du CO2, donc des gaz à effet de serre. Et puis, il va être ingurgité par des animaux. Et donc, on voit, il y a 1,5 million d'animaux marins qui meurent chaque année à cause des plastiques. Le plastique, c'est un super support de virus, de micro-organismes. Donc, comme on sait qu'on commence à en avoir dans le sang, ça peut être aussi un support de virus. Le problème, c'est que ça met l'océan en danger. Et l'océan, c'est ce qui fait vivre la Terre, c'est ce qui nous fait vivre, puisque c'est le poumon. L'océan produit 70% de l'oxygène mondial. C'est l'océan qui, de par les courants, régule les températures. Si c'est vivable sous les tropiques, autour de l'équateur, c'est grâce au courant qui ramène de l'air froid, des eaux froides. Voilà quoi. Sinon, on ne pourrait vivre que quasiment dans une zone tempérée s'il n'y avait pas les courants.
Forcément. Et d'ailleurs, une des problématiques de ce réchauffement qu'on sent venir vraiment, c'est les scientifiques craignent par rapport au Gulf Stream qui est.
Oui et non. J'ai entendu d'autres études. En découvre un peu, les scientifiques bossent à fond pour avoir des infos, mais c'est compliqué. Mais effectivement, ce Gulf Stream, c'est lui qui fait
que par exemple,
en Normandie, il fait doux tout le temps, il gèle pas et on est bien.
C'est ça.
Enfin, vous êtes bien parce que je suis pas en Normandie. Mais quand je suis en Bretagne, c'est un peu.
Il faut se rendre compte qu'on est sous les mêmes latitudes à peu près que le Canada et New York. Voilà. Et il faut. Alors, quand vous voyez les hivers au Canada. Et à New York.
Exactement, ça, c'est un bon exemple parce que les villes, la côte est, sont sur le littoral. Par contre, il fait moins 40 l'hiver.
C'est ça.
Et en fait,
Gulf Stream, justement.
Non, c'est pas seulement
c'est
ça.
Pas
c'est
ça
parce que les vents dominants sont toujours venant d'ouest.
D'accord.
Donc nous, comme les vents viennent d'ouest, ils sont adoucis par la température de l'eau qui est toujours un petit peu plus chaude et un peu plus chaude. Donc forcément, c'est de l'air plus doux qui vient chez nous, en Bretagne, en Vendée et ici en Normandie.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les vents viennent des terres, en fait.
Voilà, et du coup, c'est du vent continental. Donc c'est du vent qui est très froid et qui n'est pas du tout tempéré. Et c'est pour ça qu'il se retrouve. Et donc, tu as des vents qui sont très froids qui se retrouvent au contact de l'eau. Et donc, plus un air est froid, moins il peut contenir d'eau en forme de gaz. Donc dès que tout ce qu'il ne peut pas contenir, eh ben, il le condense et ça flotte ou alors ça neige.
Ce fameux froid sec.
Voilà, c'est pour ça qu'il fait froid et sec ou alors chaud et humide. C'est parce qu'un air. C'est pour ça que les gens mettent du chauffage pour faire sécher leur linge dans les salles de bain. Mais l'eau ne disparaît pas. Elle est toujours dans l'air. Elle est contenue sous forme de gaz. Donc c'est pour ça qu'il faut aérer, parce que sinon c'est comme ça qu'on a de la moisissure dans sa salle de bain.
Voilà.
Bon, et là, on s'éloigne du sujet.
Oui, on digresse. On revient. Alors, on parlait de pollution des océans. Est-ce que le plastique fait partie de ce qui acidifie les océans ou pas ?
Je ne crois pas.
Non.
Non.
D'accord.
Non.
C'est juste de la merde qui tombe dans le fond.
Voilà. C'est ça. Dans le fond, qui flotte.
Ou qui flotte.
Qui flotte. Parce que
dans le meilleur des cas, qui flotte pour qu'on puisse au moins le récupérer.
On peut parler du fameux. Les gens parlent du septième continent. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. En fait. Moi, je ne suis pas très fan de cette expression parce que ça induit un peu en erreur. Ça veut dire qu'il n'y a pas un septième continent, mais c'est sur des gyres. On appelle ça des gyres, G-Y-R-E. Il y en a au moins sept.
Notez-le pour le Scrabble, à mon avis, sur un compte trip, c'est pas mal.
Exactement. Donc, il y en a deux dans l'Atlantique, il y en a deux dans le Pacifique et un dans l'océan Indien. Et donc, ce sont des espèces de grandes soupes. Parce que c'est aussi pas un continent, parce qu'on ne peut pas marcher dessus, on ne le voit pas vraiment.
Ouais, c'est
quand
ça.
On arrive, on ne sait pas trop. Par contre, en dessous, c'est 30 mètres et c'est une soupe de plastique en suspension. Et ce sont des plastiques qui sont complètement détériorés par les UV, par le sel, et dont on ne peut plus rien faire. Et qui sont là, et c'est des plastiques souvent des années 70-80 qui sont arrivés là. Donc, parce que de toute façon, on sait que maintenant que 80% des plastiques viennent de la Terre. C'est pas du tout les bateaux qui jettent, c'est tout. On balance l'équivalent de 17 tonnes par minute, donc un camion de poubelle par minute, on jette dans la mer actuellement dans le monde. Et c'est pour ça que l'association est née. Donc justement, l'association, comment est-elle née ?
Allons-y.
Et ben voilà,
j'ai même pas besoin de faire les questions, ça se fait tout seul.
Oui, je trouvais que c'était long à arriver, donc je me suis arrangé pour qu'on y aille.
Non, mais parce que en fait, on a eu les personnes qui s'occupent de la propreté du site juste avant, qui disaient, ben on retrouve beaucoup de mégots, on retrouve pas mal de programmes, de trucs qui sont balancés, voilà, un peu à droite à gauche.
Allez, donc je vais rebondir quand même sur les mégots parce que c'est quand même une catastrophe, ces saloperies de mégots.
Ouais.
Un mégot pollue 500 litres d'eau. Un seul mégot pollue 500 litres d'eau parce qu'un mégot contient plus de 1500 produits toxiques. Sachant que dans une clope, il y a des agents de texture, il y a des trucs pour rendre addict, il y a des combustibles pour pas que la clope s'éteigne. Et donc tout ça, c'est une vraie bombe. Donc les fumeurs, vous savez déjà ce que vous fumez, mais là en l'occurrence, c'est pas parce que vous avez décidé de vous pourrir l'intérieur avec des produits toxiques qu'il faut pourrir la nature avec ça. Et un mégot, c'est en plastique, ça disparaît vraiment jamais parce qu'après c'est de la nanoparticule, mais c'est au moins 200 ans à se promener. Et c'est pas parce que vous le jetez, je sais pas où moi, on va dire à Alençon pour donner un exemple dans les terres, qu'après il suffit qu'il pleuve et ça va dans les égouts, ça va dans la rivière, dans l'Orne par là, je sais plus.
Oui, c'est ça, Alençon, l'Orne, ouais, l'Orne, on est dedans.
C'est l'Orne et puis après ça va dans la mer.
Forcément.
Vu le temps de décomposition, et entre temps, on aura pollué, mis des produits toxiques. Et les produits toxiques, eh ben, pour peu que ça aille dans la nappe phréatique, c'est dans la consommation.
Voilà, et donc cendrier de poche, vous rentrez chez vous.
Exactement.
Vous jetez ça à la poubelle.
On en propose, on les vend à 2 euros pour soutenir l'association. Mais bon, si vous achetez un pull, on peut vous en offrir.
Allez, historique de l'asso.
Allez,
c'est parti.
L'association née en 2016, créée par. Vous savez que le navigateur.
Alors, il y en a tellement, mais
Yvan Bourgnon.
D'accord.
Yvan Bourgnon, qui naviguait depuis qu'il a l'âge de 8 ans. Il est parti avec ses parents faire un tour du monde. Et donc, c'était cool. Et puis, il a fait beaucoup de compétitions avec Laurent Bourgnon. Ils ont eu plein de records, ils ont gagné plein de courses. Et bon, Laurent est malheureusement décédé. Est disparu en plongée, mais Yvan a continué et en 2016 il a fait un tour du monde en catamaran non habitable. Vous savez les Hobie 16 là,
oui.
Un catamaran de plage, c'est un Acra, je crois, mais peu importe, sans non habitable, sans électronique, sans GPS, sans météo.
À l'ancienne,
il a fait un tour du monde, un truc non habitable, et là il voyait des plastiques partout passer sous le bateau et notamment aux endroits qui étaient le plus éloignés des côtes, au fin fond du Pacifique là. Et là, il s'est dit, c'est pas possible, faut faire quelque chose, je suis dégoûté. Il existe des camions de poubelle, moi j'aime les bateaux et les catamarans, je vais faire un catamaran poubelle. Mm-hmm. Et donc il s'est dit, on va faire un catamaran géant avec des tapis roulants en collecteur entre les coques, des filets derrière, et on va aller nettoyer les océans. Seulement, à discuter avec les scientifiques, on s'est rendu compte, l'association s'est rendu compte que finalement, c'était pas vraiment une bonne voie. Il faut savoir se remettre en question dans la vie et l'accepter. Mm-hmm. Et c'est pas forcément une bonne voie parce qu'on va faire des milles et des milles pour prendre des bouts de plastique par-ci par-là. Ça va être de l'argent, du temps. Et finalement, ces bouts de plastique, on peut rien en faire parce qu'ils sont tellement dégradés. Mm-hmm. Et les scientifiques ont dit, bah, par contre, 80% des déchets viennent de la Terre et notamment quasiment de 11 fleuves dans le monde.
Ouais.
Toute l'Asie du Sud-Est. Plus le Nil, alors il y a beaucoup de. Mais les tops, quoi, c'est le Nil. Donc toute l'Asie du Sud-Est, de la Chine jusqu'au Gange. Mm-hmm. Après, il y a le Nil, le Niger, bon, il y a aussi le fleuve Congo un petit peu, et l'Amazone de l'autre côté. Donc on s'est dit, ah, et ben alors il faut aller travailler dans les estuaires, prendre le déchet à la source.
D'accord.
Parce qu'ils sont là, il n'y a pas besoin de courir après.
Ouais.
Ça évite que quand on attend, bah, au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, il y en a plein la plupart qui coulent, donc on ne peut plus les rattraper au fond. Et puis, bah, ça évite qu'ils soient trop attaqués par les UV, par le sel, l'action mécanique des vagues. Donc le projet du bateau, avant c'était un bateau de 70 mètres de long, avec 4 mâts, c'était complètement fou. Et là on s'est dit, non, soyons réalistes. Ça fera moins aussi d'argent privé à chercher parce que ce sont des mécènes qui financent tout ça. Et puis du coup, le bateau pourra aller dans les estuaires pour nettoyer. C'est un navire usine avec des opérateurs à l'intérieur. Tout ce qui est recyclable, le verre qui flotte encore, les métaux ou des plastiques qui sont recyclables à la base et qui n'ont pas été trop détériorés par les UV. Mmh. Ceux-là, on les compacte, on les mettra à terre pour les recycler. Et tout le reste des plastiques qui sont collectés va être transformé en énergie pour faire avancer le bateau.
D'accord.
Donc le bateau aura plusieurs sources d'énergie électrique parce qu'il a deux moteurs électriques
derrière.
Il aura du solaire. Enfin, si vous allez voir le Manta, le bateau, vous avez tapé le bateau Manta pour voir des images. Il est magnifique.
Ouais, d'où l'arrêt en logo.
Et bien un peu en forme de raie justement.
Okay.
Il a des grandes ailes, une espèce de gueule comme ça. Et donc du solaire, il y a deux éoliennes, il y a des hydrogénérateurs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des hélices qu'on met à l'arrière du bateau dans l'eau, et quand le bateau avance, ça fait tourner l'hélice, un peu comme les dynamos.
Voilà.
Et pour l'anecdote, tous les grands compétiteurs en haute mer, le Vendée Globe, Route du Rhum, toute leur production électrique, c'est avec des hydrogénérateurs pour leur électronique embarquée. Et il y aura quand même, donc le bateau va être autonome à 75%.
Okay.
Il y aura quand même un groupe électrogène, pour la simple bonne raison, c'est que c'est obligatoire. Quand on fait un bateau transocéanique, pour avoir l'agrément de navigation, il faut avoir, c'est un élément de sécurité.
Mmh.
Et donc, bah, y aura une partie quand même qui sera au groupe électrogène, mais sinon la plupart, déjà, les plastiques qu'on va récupérer, on va les traiter sur place, on n'aura pas à les rapporter à terre pour en faire autre chose.
D'accord.
Donc voilà. Et donc il y aura des opérateurs. On a prévu 200 mètres carrés de sensibilisation dans le bateau.
Alors il y a juste un truc qui me. Tout à l'heure, il était évoqué que quand on ramassait justement les plastiques aux estuaires, il y avait une partie qui pouvait servir à l'énergie du bateau.
C'est ça.
Et alors, comment on le transforme ça ?
Alors. Là, le bateau va bientôt rentrer en phase de construction puisque le bureau Veritas a dit c'est OK.
D'accord.
On a lancé l'appel d'offres pour les chantiers navals. J'aime bien dire chantier naval, mais
j'aime bien
parce qu'à force de dire des bêtises pour rigoler, des fois à la radio, faut être un peu sérieux. Alors,
on va faire semblant.
Voilà, c'est ça. Et donc les chantiers navals.
Oui.
On était parti sur la pyrolyse. Pyrolyse, vous savez, c'est quand on chauffe très fort, ceux qui ont des fours et la pyrolyse,
ça dégraisse complètement, ça crame les graisses.
Voilà. Donc là, tu chauffes très fort le plastique et ça crée un gaz,
alors,
en tout cas un gaz récupérable et par un système de détente, on peut créer l'électricité. Mais le problème, c'est que ça crée aussi une espèce de résidu bitumineux qui est très toxique et qu'on peut même pas utiliser pour faire des routes.
Ouais.
Et il y a notamment quelques gaz à la fin qui sont hyper toxiques. Donc on s'est dit, on va peut-être retourner sur une combustion parce que la combustion, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Qu'on utilise partout dans le monde et qu'on connaît bien, les filtres, on connaît tout ça bien.
Ouais.
Et peut-être que c'est plus simple. Parce que tout le problème du bateau, c'est de faire un bateau qui soit le moins lourd possible pour pas qu'il soit énergivore.
Mm-hmm.
Donc ça veut dire que toutes les technologies de collecte, de compactage, de broyage ou de pyrolyse, il faut que ça soit adapté à un milieu salin avec des déchets salés et surtout qu'il soit le moins lourd possible.
Donc ça montre c'est nos ingénieurs. La complexité du défi au final.
Voilà,
quoi.
C'est ça, nos ingénieurs qui bossent beaucoup là-dessus parce que l'association existe depuis donc 2016 et on est à 31 salariés.
Mm-hmm.
On est une équipe qui est plus sur la com forcément et le mécénat parce que on est financé par des privés. Ouais. Alors, c'est soit des entreprises qui donnent des sous, et en échange, ils ont des fringues, mais on les aide aussi à, en interne, faire avancer leurs pratiques écologiques. Et quand ils viennent, on s'assure que ce n'est pas juste du greenwashing, qu'en interne, ils ont déjà des gens qui s'occupent en QSE, qualité, sécurité, environnement, qui font des actions pour qu'il y ait moins de gaspillage.
Il y a un vrai contrôle de chaque partie.
Il y a des choses toutes bêtes à faire dans une entreprise au quotidien. Par exemple, faire en sorte que quand tu vas à la machine à café, tu puisses mettre ton mug. Et que t'es pas forcément un gobelet qui tombe. C'est des choses toutes bêtes comme ça. Et inciter les gens, quand ils impriment, à prendre des brouillons et pas une feuille toute propre, une erreur d'impression.
Tient pas que à l'univers de l'entreprise au final, parce que des brouillons pour imprimer des trucs qui un mail informatif, ça c'est des choses qu'on peut
justement
faire aussi.
C'est l'avantage aussi, c'est que quand tu sensibilises tes salariés à la maison, ils font ça aussi.
C'est ça.
Voilà. Et donc on a aussi, donc c'est pas forcément seulement des gens qui donnent des sous. Ça peut être on appelle du mécène d'entreprise. Ça veut dire une entreprise spécialisée nous met à disposition un salarié pendant 6 mois. C'est eux qui les payent, seulement ils bossent pour nous. Ou alors, quand tu as un dossier ou des chiffres à exploiter, et ben, une entreprise nous dit, vous nous envoyez ça, on vous le fait gratos. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est Epson qui nous fout toutes les imprimantes.
D'accord, voilà. Donc Epson, se doit aussi de faire en sorte que... leurs appareils soient... évidemment, c'est du plastique aussi, les imprimantes, on va pas se leurrer.
Après, c'est des pratiques au niveau de l'entreprise.
Mais voilà, c'est ça. Je reviens aussi sur la transformation, encore une fois, du plastique. J'ai vu il n'y a pas longtemps qu'on a découvert le processus inverse. C'est-à-dire que le plastique est fait à partir de pétrole. Et une fois qu'on a du plastique et qu'il est jeté dans la nature ou qu'il est transformé, etc., on peut, maintenant, le retransformer en pétrole. Via des alambics et via, via tout un... Est-ce que ce process-là, il est, il est en cours d'imagination chez vous ?
Nous, on est pour l'instant plus dans adapter des solutions qui existent déjà pour qu'elles soient légères et qu'elles aillent sur le bateau. Là, on vient de découvrir ça. Pour l'instant, c'est des gros.
Si vous récupérez du plastique et que vous le fournissez à ces entreprises qui les transforment, on a vu aussi, je crois que c'est au Mexique, ils ont modifié génétiquement des vers qui maintenant peuvent manger du polystyrène. Est-ce que ça, c'est des vrais espoirs ou est-ce que c'est des confettis ?
Non, c'est des super espoirs, au contraire. Et là, il y a beaucoup de recherche et développement partout qui trouvent des solutions pour faire quelque chose de ces saloperies de plastique qu'on produit en trop et dont on n'a pas besoin. Mais ça fera partie des transformations du recyclage des plastiques quand on va revenir à terre et qu'on peut installer sur place. On est en partenariat avec des entreprises qui font des unités de recyclage dans des containers, comme ça on peut les poser par-ci par-là quand il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Mais effectivement, ça, pour les plastiques qu'on va récolter et qui ne seront pas trop impactés, qu'on va récolter, compacter, une fois qu'on est à terre, et ben ça, on pourra développer parce qu'on... On n'est pas que dans la collecte. On se dit c'est bien beau de collecter, mais si on sensibilise pas.
L'idée c'est de pas jeter au départ.
C'est bien beau de collecter, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Donc c'est pour ça que de même on réfléchit de plus en plus à l'amont et l'aval de la collecte. Même si pour nous le projet phare quand même c'est le bateau, le Manta. Et d'ailleurs ce bateau il va être épaulé par des plus petits qui s'appellent des mobulas. C'est une autre variété de raies. Ce sont les raies qui font des concours de plats.
D'accord.
Et qui sont en bande. Tapez raies mobula, il y a des vidéos où elles font des concours de plats, c'est assez rigolo. Et ça, c'est des plus petits bateaux de 9 mètres et 10 mètres qui vont aider le Mobula, parce que le Manta va avoir 3 mètres 10 de tirant d'eau, qui va être un peu limité dans les estuaires, autour des archipels, et dans les mangroves. Et donc, on a fabriqué un Mobula 8, qui est pour les eaux calmes. Celui-là, il est déjà fait, il part en Indonésie pour travailler.
D'accord.
En partenariat avec un chantier naval de Paimpol qui s'appelle Ifinor, qui fait déjà des bateaux de dépollution et de nettoyage.
Okay.
Certains en ont vu au Havre, à Marseille, partout. À
Paris, comment on pourrait résumer ça? Est-ce que c'est les éboueurs de la mer? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on s'habitue justement à ce que, de toute façon, il y a des gens qui vont nettoyer la mer, donc...
Non, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de sensibilisation, pour dire dans les écoles et tout ça, pour dire aux gens... Mollo, il faut faire en sorte d'avoir arrêté avec les bouteilles d'eau. On a des gourdes.
Oui.
De toute façon, les bouteilles d'eau, c'est 300 fois plus cher que l'eau du robinet. Donc, par exemple, prenez plutôt du savon plutôt que des gels douche. Et puis, mine de rien, du gel douche, c'est du savon liquide. Donc, c'est qu'on met de l'eau. Et si on met de l'eau pour pas que ça se décompose, il faut mettre des conservateurs. Donc, vous vous mettez des conservateurs encore sur vous et dans la nature.
Et puis, même les barils de lessive, maintenant, on fait. Il y a des gros progrès aussi à ce niveau-là. Il y a des lessives en feuilles
ou en vrac
aussi. Ouais. vous ramenez vos contenants et puis parce ouais. que un bidon de lessive à chaque fois que vous en achetez un, bah, il est vide de, bah, donc on le jette, on retourne donc, au supermarché, ouais, rebelote et machin.
Je vais toujours au même endroit du coup, mais j'ai le bidon avec le code-barre qui correspond et je le remplis et ils le pèsent, ils savent que mon bidon pèse tant à cause du code-barre qu'il y a dessus.
Voilà.
Et donc dès que c'est vide, je vais chez eux, je remplis.
Donc c'est plein de petits gestes. Il faut aller voir alors le site internet, déjà on va le rappeler, The Sea Cleaners. Oui. Attention, c'est au pluriel. TheSeaCleaners.org. Ce sera écrit dans le podcast de toute façon avec un lien qui va vous mener directement vers le site.
Ah bah, à propos de podcast, je rebondis, on vient de sortir un super podcast qui s'appelle Les Déferlantes comme des vagues.
Okay.
C'est 6 épisodes d'une demi-heure et où on parle de la problématique plastique, des solutions possibles, d'où on en est. Il est super bien produit, nos collègues de Paris, de la Com, ont fait un super boulot et c'est trouvable sur YouTube pour ceux qui connaissent, mais surtout toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, le podcast Apple, tout ça.
Et oui, les podcasts, on le vend en poupe ces dernières 2-3 années, là, ça commence à monter en flèche. Alors, à la fois, c'est super, c'est encore un autre débat, mais depuis l'avènement de YouTube, en fait, et jusqu'à aujourd'hui, on a développé des fermes entières de disques durs qui sont refroidis pareil au Fréon, etc. Enfin, c'est encore un autre débat. Et c'est bien et c'est pas bien.
Donc rien n'est simple.
C'est toujours compliqué, mais en attendant, bon, voilà, on a cet avantage de d'essayer de trouver des solutions, d'y réfléchir en tout cas, et puis de se sensibiliser, parce que effectivement, les poissons, eux, ils s'en foutent, ils fument pas de mégots, ils mangent pas de poissons en barquette. Donc,
mais ils mangent des nanoparticules
qu'on ingère aussi derrière, donc forcément, faites attention,
faites attention quand vous achetez aussi. Quand vous voyez des paquets de madeleine ou qui sont emballés, vous dites non, je prendrai autre chose. Et puis si je veux mettre une madeleine dans mon sac, je prends une petite boîte ou un petit bocal ou un tupperware.
Revenez au plaisir simple. Soyez exactement. Sûr de vous faire plaisir avec des vraies bonnes madeleines dans une boîte en fer. Et vous en prenez 6 et ça vous fait...
Dans votre sac à dos, vous pouvez mettre dans une plus petite boîte.
Voilà.
Hein, un petit tupperware ou un petit bocal, un bocal de confiture que vous avez lavé et puis hop là.
Allez à l'essentiel en tout cas.
Mes gamelles le midi, c'est dans des bocaux, je les mets dans des bocaux.
Ah oui, alors tu avoir en verre, s'il vous plaît, ça passe au micro-ondes. Quand vous mangez directement dans votre truc en plastique, vous ingérez du plastique directement. On mange 5 grammes de plastique
par semaine.
Chaque semaine, c'est l'équivalent d'une carte de crédit.
Exactement.
Donc, voilà, à bon entendeur.
Exactement.
Merci beaucoup, Gwenaël, d'être passé.
Merci d'avoir accueilli, c'est super.
Où est-ce qu'on vous retrouve sur les quais là, on est quai Bérini, nous, face au Bélène.
Un peu plus loin.
C'est le même quai. Donc, bonne continuation, profitez du soleil. Et puis, gardez vos trucs dans vos poches, jetez à la maison.
Exactement, on vous attend de pied ferme.
Yes. Merci beaucoup, Gwenaël.
Merci à tous. Bonne journée.
Bonne journée. On continue les programmes de Radar. Juste un petit jingle pour rappeler que vous êtes sur Radar et qu'on passe un bel après-midi à Fécamp Grande Escale. On va recevoir tout de suite un des musiciens qui se produit du côté de la Morue Joyeuse. Et puis, on vous reprend dans les quelques secondes de ce petit jingle.
Fécamp Grande Escale 2022. C'est sur Radar.
Et oui, Fécamp Grande Escale, c'est sur Radar, c'est en direct du quai Bérini où on a le Bélem juste en face de nous. À l'instant, on avait Gwenaël des Sea Cleaners qu'on vous invite à rejoindre, on vous a dit, dans le podcast, ça va être inscrit, les adresses, etc. etc. Les interviews s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. On reçoit sur le plateau et dans le studio mobile de la caravane de Arensor un monsieur dont je ne connais pas le nom, mais qui va me le dire tout de suite. Bonjour.
Voilà, bonjour, Stéphane Thiria, et je suis le responsable de l'ensemble Les Soleils Boulonnais.
Les Soleils Boulonnais, Stéphane Thiria, donc, qui s'est produit au cabaret de la Morue Joyeuse.
On vient juste de se produire au cabaret de la Morue Joyeuse, qui est vraiment un merveilleux endroit, d'où on a une vue sur le bassin magnifique. C'est vraiment une très belle fête, sous le soleil en plus, c'est top.
Si vous voulez mettre un casque, histoire d'entendre, alors il y en a un juste là.
Voilà,
voilà,
celui-ci,
hop.
Voilà. Et je vais enlever la casquette.
La petite voilà. casquette qui va voilà. bien. Voilà. voilà, parce que on enchaîne vraiment, hein, c'est du direct. Alors, dans quel style officiez-vous ?
Alors nous faisons ici sur cette fête, qui le programme musical a été conçu par le Fécampois Pascal Servin, le Gros Mort, et puis Michel Colleux, son complice, et ils ont invité donc des groupes de chants marins qui interprètent des chants marins des côtes de la mer du Nord et de la Manche. Et nous, sur les côtes boulonnaises, nous avons vraiment un répertoire de chants de marins très spécifique, et c'est à ce titre que nous avons été invités sur cette fête.
Alors Pascal Servin, qui est grand amateur et grand connaisseur des chansons, et j'aime bien vraiment, mais alors je dis à nos auditeurs depuis hier qu'on va l'avoir dans la carrière, oui. Mais je sais qu'il est très occupé, il est très demandé parce qu'il organise un petit peu, c'est monsieur partout, voilà. Donc il est difficile à récupérer, mais on va finir par l'avoir, et effectivement ça c'est quelque chose qui lui tenait vraiment vraiment à cœur. C'était pas juste rassembler des bateaux, rassembler des matures et des voilures, il fallait qu'il y ait les chants qui vont avec, ça ça lui tenait vraiment à cœur. Donc vous en plus c'est des chants vraiment spécifiques d'une région particulière,
voilà,
vous disiez.
Des côtes boulonnaises, et on vient de terminer ce concert et on voit l'engouement du public pour ces chants du reste qui sont anciens, et notamment je pense à celui d'Équipeur, puisque vous êtes donc une radio
De Fécamp, en Fécampoise quoi.
De Fécamp, mais qui s'intitule donc
Radar.
Radar, hein, voilà. Et nous à Boulogne comme à Fécamp, il y a de nombreux points communs entre les Boulonnais et les Fécampois. Mm-hmm. Hein, c'est qu'on a travaillé, on travaille toujours beaucoup le hareng. Hein. Boulogne était un grand port haranguier, comme l'a été Fécamp dans le passé, avec la morue également. Et il fut une époque prospère de la pêche boulonnaise jusqu'à la fin des années 70, où de nombreuses familles fécampois de marins sont venus s'établir sur Boulogne, tout simplement.
D'accord.
Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de marins boulonnais pour naviguer à bord de nos bateaux de pêche. Donc on allait également, les armateurs boulonnais, aller chercher des marins sur Fécamp, où il y avait d'excellents marins et patrons de pêche également.
D'accord. Alors, dans ces chansons, on dit, hein, chaque région, vraiment, si on va dans chaque port, il y a vraiment des chansons spécifiques pour chaque endroit. Qu'est-ce qu'elles sont de spécifiques, celles-ci, ces chansons boulonnaises ?
Alors, chez nous, je dirais que partout, dans n'importe quel coin, que ce soit à Fécamp ou sur nos côtes, bon, il y a un répertoire de chants de marins connus qu'on entend partout. Alors, il est spécifique parce que, en fin de compte, ces chants relatent des événements locaux, une tradition orale spécifique au secteur, et donc ça en fait, la valeur particulière. Je pense notamment aux chants d'équipeurs, mais je pense également à des chants de grève, par exemple. En 1975, les autorités européennes demandent à ce qu'on arrête de pêcher le hareng, puisque les fonds sont sérieusement menacés, la reproduction de l'espèce. Et à l'époque, par exemple, un patron de pêche boulonnais, Jean-Baptiste Bonvoisin, va écrire un chant, Ce métier de misère, que l'on a interprété hier dans ce lieu mythique qu'est la Boucane, et qui parle justement de ce conflit à l'époque, hein, qui faisait que les pêcheurs ne pouvaient plus aller pêcher le hareng. Et c'est quelque chose qui revient d'actualité, du reste, parce qu'avec le Brexit, nos amis britanniques ont privé les bateaux de pêche boulonnais d'un certain nombre de licences qu'ils ont eu du mal à récupérer. Et à l'heure actuelle, vous voyez, encore 4 licences de pêche qui sont à récupérer. Comme quoi, le passé que l'on retrouve au travers de ces chants de marins aide énormément à comprendre les problématiques actuelles du métier de marin-pêcheur.
Ouais, c'est en fait une sorte de journal intime régulier de l'activité de pêcheur, de l'activité maritime. Et puis, ce sempiternel ennemi juste en face de chez nous.
Tout à fait.
Indécrottable ennemi anglais.
Voilà.
C'est pas qu'on les aime pas, mais régulièrement. Alors, qu'est-ce qui explique ça ? Qu'est-ce qui explique ça ? Est-ce que c'est vraiment le fond maritime, cet attachement au territoire de pêche ?
Tout à fait, tout à
ça
fait.
Ça a toujours été comme ça.
Comme vous le dites, en fin de compte, en ce qui concerne nos marins boulonnais, ils pêchent essentiellement dans le détroit du Pas-de-Calais, et très vite, on se situe il se trouve dans les eaux anglaises, internationales et anglaises. Mmh. Et du coup, voilà, hein, qui étaient des eaux européennes, de ce fait de l'Europe bleue. Et de ce fait, ça génère des conflits. Hein, donc, ça existait à plusieurs périodes de l'histoire. Et fut un temps, et on a un certain nombre de chants de corsaires chez nous à Boulogne, qui relatent l'époque où les marins boulonnais qui se faisaient corsaires allaient aborder à l'abordage de bateaux anglais et hollandais qui croisaient au large de Boulogne. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne les conflits de territoire de pêche aussi. Donc, avec les Anglais, comme on dit toujours chez nous, c'est « je t'aime, moi non plus ».
Oui, c'est toujours le cas. Enfin,
voilà.
on n'en sortira peut-être jamais.
Voilà, tout à fait.
Et ça fera encore des chansons.
Voilà, ça sera encore source d'inspiration de chansons. Ce qui est important à travers ces chansons, en fin de compte, c'est d'entretenir la mémoire collective. Mmh. Hein, c'est le travail que fait Pascal Servin ici sur Fécamp, Michel Colleux. Et c'est très important d'entretenir, gérer ce patrimoine, parce que, encore une fois, c'est une façon ludique, plaisante, de faire, d'évoquer des pages de notre passé maritime. Il est extrêmement important pour le présent et pour l'avenir de notre pays aussi.
Alors, parlons d'avenir. Est-ce qu'il y a des idées d'avenir dans certaines chansons ? Est-ce qu'on évoque ce que deviendra le métier plus tard ?
Alors non, pas encore. C'est vrai qu'il y a des... Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des écoles maritimes. Ici, vous en avez une à Fécamp, comme oui. Du reste, nous en avons eu une à Boulogne. Hein, voilà. Et actuellement, effectivement, ce métier attire des jeunes. Et ça, c'est formidable. Ils trouvent, pour peu qu'ils fassent preuve d'un peu de mobilité, ils trouvent tous à s'embarquer à bord de bateaux de pêche. Et lors d'une fête que nous organisons chez nous au mois de septembre, la fête de la Berlière, ça sera la 28e cette année, eh bien, nous avons toujours des lycéens de lycée maritime qui viennent, et c'est toujours très agréable de discuter avec ces jeunes. Nous représentons le passé de la marine avec nos costumes, ses traditions, etc. Mais en fin de compte, il y a un lien facile à faire entre le passé et l'avenir, et c'est bien que des jeunes aient envie de faire ce métier, parce que c'est un peu comme le métier d'agriculteur, le métier de marin, une formidable liberté.
Ah, c'est un véritable engagement aussi, c'est une sorte de sacerdoce. Exactement. On se lance pas là-dedans n'importe comment. Je voulais savoir un petit peu justement ce lien entre les anciennes générations, les nouvelles générations. Quelle est la chanson la plus actuelle que vous ayez dans votre répertoire finalement ?
Alors, la plus actuelle que l'on ait par rapport à l'évocation de ces problèmes de la pêche, c'est ça, vous
voulez par dire, exemple, oui, ou en tout cas, chant de marin dans leur ensemble.
Moi, je dirais qu'il y a deux chants. Ce métier de misère dont je viens de vous parler.
Donc 75.
Voilà. 1975, L'Équipeur, paradoxalement, ça date des années 30, mais c'est une chanson que tous les Boulonnais connaissent, quel que soit leur âge. Elle fait toujours un véritable tabac, et la preuve en est tout à l'heure au cabaret de la Marie,
la Morue Joyeuse.
Oui. Voilà. Tout le monde l'a repris spontanément, et ça montre bien
l'adhésion
du public.
C'est ça qui est fou, c'est que bon, on a beau être dans un port différent ou dans une région différente, on a toujours des gens qui sont soit connaisseurs, ou en tout cas c'est ce que j'ai vu depuis qu'on est là, en fait, régulièrement les artistes qui se produisent sur cette scène du cabaret de la Morue Joyeuse disent « Ah, alors maintenant ça va être à vous », et spontanément les gens connaissent de toute façon toutes les chansons et les reprennent tous en cœur, quoi. En tout cas, moi, public lambda, je ne me doutais pas de ça.
La magie d'une fête maritime, en fin de compte. C'est l'ambiance qui se dégage, subitement. Il y a un air qui plaît, les gens sont partis et ça fait l'ambiance, et c'est un des souvenirs qu'ils garderont de la fête qu'ils ont pu fréquenter. Voilà.
Alors, plus précisément, vous êtes formé de combien de musiciens ?
Alors, nous avons un seul musicien qui nous accompagne pendant ces 3 jours. C'est un excellent violoniste, et je dirais ça se suffit, parce qu'il faut savoir qu'à bord des bateaux, il n'y avait pas d'orchestre. Généralement, il y avait quelqu'un qui savait jouer de l'harmonica, ou quelqu'un qui un violoneux, comme on dit, ce sont des gens, en fin de compte, qui apprenaient à jouer un instrument sans apprendre le solfège. Et puis également, il y avait parfois un accordéon chromatique ou diatonique, mais c'était rare qu'il y avait un orchestre complet à bord. Donc une fois que le musicien était là pour donner le temps et assurer les reprises musicales, et voilà, c'était suffisant pour créer l'ambiance à bord des bateaux.
Mais il suffit de pas grand chose au final.
Tout à fait. Il suffit de pas grand chose et puis la mayonnaise prend comme c'est on ça. Dit et c'est ça la magie
et puis ça se retransmettait aussi de bouche à oreille. Exactement. Que ce soit les notes sur un accordéon ou sur un violon, soit à l'oreille, je connais cet air là
voilà.
Il suffit de trois cordes,
j'ai trouvé. Les gens, effectivement, comme vous le dites, jouent à l'oreille. Ils connaissaient pas le solfège, ils jouent à l'oreille, et c'était sans doute les meilleurs musiciens populaires que l'on avait.
Eh ben, merci pour l'ensemble des précisions. Je vois qu'il y a un disque devant
voilà,
vous.
Et je
alors parlons-en.
Voilà, vous l'offrir.
Triptyque
Boulonnais. Alors tout simplement parce qu'on va y trouver dedans des chansons, des chants des gens de mer de chez nous, de la période 14-18 où s'est écrit de nombreux chants de marins, et puis aussi de la période de Noël aussi, puisque nous avons des Noëls boulonnais également chez nous. Voilà, et j'ai le plaisir de vous l'offrir.
Eh ben, c'est un plaisir de recevoir aussi. Voilà. Ça, il va falloir qu'on discute de plus en plus sérieusement avec Pascal Servin, parce que, évidemment, notre antenne est là pour promouvoir les musiques actuelles, donc dites amplifiées, alors que ça aille du rap au rock, en passant par le reggae, etc. Voilà. Mais étant à Fécamp, avec son historique, avec une association qui s'appelle tout simplement Arensor, ça ne s'invente pas, ce serait bien qu'on arrive à faire une émission justement autour de ces chants de marins, et de les remettre un
et
petit peu
savez,
en avant.
Il n'y a rien qui soit étanche. Hein. Je vois, nous sommes également danseurs. Le groupe des danseurs n'est pas là avec nous pendant ces trois jours. Mais nous avons collaboré, par exemple, avec un lycée au printemps qui a fait un montage de danse actuelle sur la musique dont on se sert pour effectuer une danse traditionnelle.
D'accord.
Oui, tout est ouvert à ce niveau-là. C'est très intéressant. Et ça permet aux jeunes qui parfois sont un peu réticents d'aller vers le répertoire traditionnel, de le découvrir autrement. Et voilà, il faut essayer toutes les pistes. Et en fin de compte, ils sont très ouverts là-dessus. Et c'est là l'essentiel.
Merci pour votre passion.
Merci
pour la manière dont vous et défendez l'ensemble de cette culture. Parce que c'en est une. Et on parle de musique actuelle. Et elle découle aussi de ça, mine de rien. Puisque l'ensemble de ce qu'on écoute aujourd'hui, alors bien que l'actualité soit pas du tout la même et transpire pas de la même manière dans les morceaux qu'on écoute aujourd'hui, c'est une transmission l'un dans l'autre. Et donc voilà, vous êtes digne représentant de ce genre de choses. On vous remercie pour ça.
Voilà, et merci encore à vous, et on en profite pour remercier les plus de 300 bénévoles qui se sont mobilisés pour cette super manifestation et qui nous ont réservé le meilleur accueil et grâce à qui cette fête peut se faire aussi.
Carrément, et alors est-ce qu'on peut vous demander de revenir à un moment donné, faire un petit morceau en direct à la radio?
On pourra passer, il n'y a pas de souci.
Super, voilà. Nous on est encore là jusqu'à demain.
Très bien,
jusqu'à
et aussi,
17h, donc voilà. Quand vous voulez, le matin, l'après-midi.
Avec plaisir.
Ce sera un plaisir partagé en tout cas. Merci encore vraiment beaucoup.
Merci à vous.
C'est le triptyque Boulonnais qui s'est produit et qui va encore se reproduire.
Tout à fait. On sera demain à la Boucane et sur la grande scène pour le concert final.
Voilà. Donc
et
maintenant
on va
vous
encore,
savez où.
Parcourir. Et on nous retrouvera au long des quais. Voilà pour des petits concerts un petit peu plus intimistes.
Parfait. Voilà. Et merci pour l'ensemble de ces précisions. On va repartir sur un petit programme musical histoire de vous faire une pause parce que de rien, ça fait un petit bout va falloir que vous digériez un petit peu. On vous souhaite bien la bonne après-midi à l'écoute des programmes de Radar. On se retrouve, allez, on va pas vous raconter de carabistouille, au pire dans une demi-heure et avec un nouvel invité, avec une nouvelle personne dans ce studio mobile de Arensor. On est à Fécamp Grande Escale et c'est un vrai plaisir.
Fécamp Grande Escale 2022, c'est sur Radar.